Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Esprit Occitanie, votre émission Sentinelle d'Humanité, émission coproduite par l'ANRAS, Association Nationale de Recherche et Action Solidaire. Comme toujours, à la réalisation et à la technique, mon complice Léo et votre serviteur André Satenza. En direct du studio Gisèle Halimi, je reçois aujourd'hui M. Louis Marzeau, nouveau président de l'Institut des Jeunes Aveugles. M. Marzeau, soyez le bienvenu. Après plus de 30 ans de direction générale au sein des associations toulousaines, vous venez de prendre la présidence de l'Institut des Jeunes Aveugles. J'ai l'impression, M. Marzeau, que vous faites de la résistance. Est-ce que c'est Papy fait de la résistance ?
Oui, d'une certaine façon. D'abord, merci de m'inviter, M. Atenza. Sachant que j'ai pris cette présidence 2 ans, effectivement, après avoir être devenu retraité. Suite à l'appel de l'ARS qui a proposé à un certain nombre de personnes que vous-même connaissez bien de reconstituer un conseil d'administration pour une belle fondation qui existe depuis très longtemps.
Alors j'ai vu que cet institut, hein, c'est une vieille dame, hein, une vieille institution, a été créée en 1866.
Oui, c'est ça.
Quand même, il n'y a pas beaucoup d'associations sur la place toulousaine qui ont cette histoire.
Alors, d'abord, ce n'est pas une association, parce que le 1901 est arrivé quelques temps après 1866.
Bien évidemment.
Et à l'époque, c'était des fondations avec, qui étaient marquées par... l'idéologie de l'époque, bien entendu, et essentiellement par des œuvres caritatives, et notamment, alors je me suis renseigné un peu, même si je n'ai pas eu trop le temps de le faire, par l'abbé Dassy, qui avait créé l'Institut des Jeunes Aveugles de Marseille, et qui, selon la presse catholique de l'époque, avait ensuite créé l'Institut des Jeunes Aveugles de Toulouse, comme une succursale
marseillaise.
Voilà, c'est le terme qui avait été utilisé. Quelque temps après, Toulouse a pris son indépendance, on va dire, parce qu'il y a eu quelques difficultés ou dissensions avec la distance.
Ce qui arrive dans beaucoup d'organisations.
Ce qui arrive
classique.
Souvent, voilà, ce qui arrive souvent. Et un peu plus de deux ans après l'installation donc à Toulouse, les choses sont allées très vite en fait. La reconnaissance d'utilité publique a été
accordée
2 ans, 3 ans après, en 1869, et l'Institut des Jeunes Aveugles s'est installé à l'endroit où il se trouve aujourd'hui, à savoir rue Montplaisir.
La rue Montplaisir, pour les Toulousains, se trouve côté du Grand Rond, c'est ça ?
C'est ça.
Alors, c'est un beau quartier.
Oui, c'est un beau quartier, très très beau quartier, avec de très belles maisons,
avec
très
belles constructions. Et un joli patrimoine, cette institution.
C'est ça. Voilà. Un beau patrimoine qui, à l'époque, a été construit de toutes pièces. Donc, ce n'était pas une récupération de locaux. Donc, ça a été construit spécialement pour... accueillir des pauvres aveugles, puisque à l'époque, c'était pas encore du médico-social, c'était plutôt du social caritatif.
C'était du social caritatif.
Voilà, pour ceux qui étaient dans des difficultés très particulières.
Les plus indigents, on disait d'ailleurs, les plus indigents, les plus pauvres, il fallait trouver donc une solution.
C'est ça, et la presse de l'époque disait que, à l'Institut des Jeunes Aveugles, Les gens utilisaient des techniques merveilleuses pour éduquer et permettre donc à ces personnes, ces enfants, au départ, ces enfants.
On n'utilisait pas le terme accompagné, on disait pour éduquer.
Oui, pour éduquer.
Pour donner une instruction, peut-être un métier, c'est important ça.
et donc, c'est qui ont mis en place des techniques inspirées de Louis Braille, bien entendu. pour faire en sorte que ce soit les doigts en fait qui remplacent les yeux pour lire, pour prendre connaissance du monde en fait.
Alors vous avez dit que l'ARS vous a sollicité, l'Institut des jeunes aveugles sort d'une crise importante. On ne va pas y revenir parce que cela n'intéresse pas nos auditeurs, mais on sort d'une crise et l'ARS souhaite donner à l'Institut des jeunes aveugles de le reconstituer, pourrait-on dire, de le rebâtir, de le refonder et lui donner un souffle nouveau. Et c'est à ce titre que vous avez été sollicité, avec bien entendu d'autres personnes. Donc aujourd'hui, vous avez un conseil d'administration qui est au complet ?
Alors, oui, c'est un conseil d'administration qui est au complet et qui s'est mis en place dans sa séance inaugurale le 9 octobre. Donc c'est très récent.
Très récent.
C'est un conseil d'administration qui, on va dire, même si je n'en connaissais pas grand-chose, est plutôt marqué par des personnalités qui connaissent particulièrement le secteur médico-social. Et donc, je crois que les pouvoirs publics ont fait le pari que c'était par là qu'il fallait passer, au moins dans une première époque de refondation, pour redonner à cette institution un fonctionnement qui a toujours été reconnu comme tout à fait excellent dans les prestations qui étaient données, mais qui peut-être ces derniers mois, on va dire, a pêché dans son organisation ou a pêché dans un certain nombre de domaines qui font que à partir du mois de mars, avait été nommée une administratrice judiciaire. Donc on sait tous que ces périodes-là sont particulièrement marquantes parce que...
Des périodes aussi fragiles pour tout le monde, hein, voilà, le personnel, familles.
C'est ça. Et donc on fait le pari que les choses vont non seulement reprendre, mais vont retrouver un nouvel élan, puisqu'on sait que... Pour tous ceux qui connaissent les théories des organisations, on sait que toute crise peut déboucher sur quelque chose de positif.
Sur du succès. Oui, peut-être du succès. Alors vous avez pris à bras le corps avec votre conseil d'administration, avec des personnalités différentes, mais des personnalités qui connaissent bien le secteur, des professeurs d'université, un chercheur au CNRS également, oui. Des familles, des personnes qui, aujourd'hui adultes, sont passées par l'Institut des jeunes c'est aveugles ça. Et se sont formées, elles-mêmes, atteintes donc de cette maladie. C'est terrible, la déficience oui. visuelle, c'est un handicap profond parce que on a l'impression comme ça de l'extérieur, c'est un sens primordial quoi, vous voyez.
Ce que je constate, c'est que c'est un handicap bien entendu important. Alors il y a les déficiences visuelles qui sont avec une gradation très 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 importante, et puis les personnes qui sont aveugles, donc qui n'y voient rien. Ça n'empêche pas d'aboutir à une vie, une socialisation. Alors, j'ai toujours du mal à employer le terme normal parce que je ne sais pas trop ce que ça veut dire, ce que ça recouvre. Mais enfin, ce sont des personnes qui, malgré ce handicap, peuvent s'inscrire dans la société.
Ont des métiers, ont une vie
sociale.
Voilà,
tout à fait normalement. D'ailleurs, au conseil d'administration, il y a une personne qui est un administrateur qui est aveugle et qui est ingénieur à Rangueil. Qui exerce son métier un problème particulier.
Il a un ordinateur, il sait faire des choses. Oui, il y a beaucoup de technologies autour de ça, mais on y reviendra.
Alors, tout
parce
à fait.
Que vous avez un laboratoire qui travaille avec une équipe oui. du CNRS.
Une plateforme qui s'appelle Cherchons pour voir.
Voilà, c'est ça.
Et qui travaille avec un laboratoire, l'IRIT, l'Institut de recherche informatique de Toulouse, qui est basée à Rangueil, qui est liée au CNRS. Et on est en train de rediscuter de la convention entre l'IRIT et l'Institut Jeunes Aveugles, sachant que l'Institut National des Jeunes Aveugles nous a sollicité pour entrer dans le partenariat. Et nous sommes ouverts à ce que, évidemment, un certain nombre de fondations ou d'associations participent à ce partenariat parce que nous apportons le volet expérimental, finalement, à des techniques qui sont travaillées en laboratoire et qui permettent aux personnes malvoyantes ou aveugles de mieux communiquer et de mieux s'inscrire dans
C'est de la recherche appliquée. Hein.
Ah, tout à fait.
Il y a un terrain, un terreau.
Et les professionnels participent donc. Ainsi que des personnes elles-mêmes en situation de handicap.
Alors, pour revenir à cette refondation, réinventer, donner un nouveau souffle, je sais que vous êtes un homme de conviction, un humaniste de la première heure, comme on dit. Vous allez donner le meilleur de vous-même. Vous avez déjà commencé par un chantier qui était difficile, que vous avez réussi. C'est d'abord recruter une professionnelle pour prendre la direction. Cela a été fait, c'est le premier acte, pourrait-on dire, nommer un directeur à la tête, en l'occurrence, une directrice.
C'est ça, en l'occurrence, une directrice, oui, qui...
Qui prendra ses fonctions dans quelques mois ?
Qui prendra ses fonctions début janvier, sachant que la première semaine de janvier est une semaine fériée, mais je pense que nous allons en profiter pour justement
qu'elle puisse
l'accueillir.
Intégrer rapidement les projets et les dossiers.
Tout à fait, elle prendra connaissance des dossiers immédiatement, sachant que le président n'a pas vocation à s'occuper directement des problèmes, sinon à faire en sorte que les professionnels se trouvent, eux, dans les meilleures conditions pour remplir les objectifs que le conseil d'administration va être en situation de voter ou de revoter ou de recréer ou en charge de donner un nouvel élan, finalement, parce que je pense que c'est ce qui doit aujourd'hui être mis en place. Quoi.
Alors, si on revient à la carte d'identité de l'Institut des jeunes aveugles sur Toulouse, c'est combien de salariés ? Est-ce que vous pouvez nous dire combien de professionnels présents sur l'ensemble des dispositifs ? Et on reviendra sur les dispositifs. Alors, nombre de salariés ?
Oui, je vais donner les chiffres globaux. Parce
bien sûr.
Je ne connais pas encore le détail du détail par service. Tout ça. Mais il y a... Aujourd'hui, 180 ETP.
180, qui peut être à peu près 210, un peu plus de 200 salariés, personnes physiques.
Alors, 180 ETP, ça veut dire qu'il y a davantage de personnes physiques.
Bien sûr.
Ça doit tourner autour de 200 personnes physiques, avec les variations que tout le monde connaît.
Combien de personnes accompagnées l'année, avec ceux qui rentrent, ceux qui sortent, j'imagine ?
Alors, le nombre de places accordées,
d'accord.
Parce qu'il y a un nombre de places et puis il y a la file active. Et le nombre de places accordées est de 180 places.
180 places.
Il y a 30 places pour adultes et 150 places pour enfants de 0 à... Enfin, enfants adolescents de 0 à 18 ans. Quoi. Selon des services... je vous ferai grâce de la catégorisation parce que... C'est assez complexe, mais ce que je peux dire, c'est qu'à partir du moment où un enfant naît avec le handicap visuel, il peut être pris en charge, pas forcément si c'est un nourrisson, il ne sera pas pris en charge directement à l'IGA, mais des professionnels se déplaceront aider les familles. C'est-à-dire qu'il rentre déjà dans le cycle de... Alors, pour le coup, d'accompagnement.
D'un accompagnement.
Des parents, de l'enfant, et petit à petit, de la scolarisation jusqu'à l'âge adulte.
Et donc, les adultes partent de l'Institut, pourrait-on dire, à l'âge de 21 ou 22 ans, c'est à peu près 21 ans.
Voilà. C'est ça.
Et là, ils prennent leur envol vers d'autres activités,
Soit vers d'autres activités, soit vers d'autres établissements, parce que ce que je n'ai pas précisé tout à l'heure, c'est qu'effectivement... Le handicap visuel n'empêche pas une socialisation de très bonne qualité. En revanche, s'il y a des handicaps associés...
Oui, c'est-à-dire alors, des troubles associés, il peut y avoir des troubles associés.
Des troubles associés, il peut y avoir de la surdité, il peut y avoir des TSA, il peut y avoir des comportements problèmes, il peut y avoir des handicaps sensoriels importants qui sont liés au handicap principal qui est la cécité ou la déficience visuelle. Et là, les choses peuvent devenir beaucoup plus compliquées pour l'enfant et pour l'adulte qu'il devient, à savoir que c'est l'objet, d'ailleurs, on y reviendra peut-être tout à l'heure, du projet de Cahors, où là, un établissement est en voie d'être créé pour héberger des adultes en situation de handicap, notamment visuel, et qui pourront s'installer dans un appartement dans lequel ils pourront
c'est du logement inclusif et construire une vie sur un territoire, bien évidemment.
C'est ça.
Le budget de l'Institut des jeunes aveugles est en période de préparation budgétaire,
c'est 10 millions d'euros.
C'est 10 millions d'euros.
Pour fixer les choses.
C'est qui finance plutôt l'ARS, conseil départemental, les deux.
C'est essentiellement l'ARS, puisque c'est du médico-social proprement dit. Ensuite, il y a des financements de tous ordres, puisqu'on est en lien avec la GFIP, on est en lien avec un certain nombre d'organismes qui participent à la formation des adultes, au parcours de vie de ces personnes que nous essayons. Alors, c'est toujours le paradoxe, c'est d'essayer de les accompagner le mieux possible, le plus longtemps, tout en travaillant leur autonomie, et ça, c'est des choses qui sont toujours un peu difficiles. Ce que nous essayons, c'est de leur donner une formation et un bagage qui leur permet de s'autonomiser le mieux possible.
Est-ce qu'on peut rentrer dans le détail, Monsieur Marzeau, des dispositifs qui sont aujourd'hui donc véritables prestations de l'IGA. Donc j'ai vu qu'il y avait un parcourant, bien entendu, ce qui est disponible sur la toile, comme on dit. J'ai vu que vous aviez une entreprise adaptée où des jeunes qui ont un appétit particulier avec, pourrait-on dire, les travaux manuels. Et vous avez une entreprise adaptée qui fait de la tapisserie, du canage, du paillage. Et donc, on les forme, et cette entreprise adaptée est une entreprise, certes, comme on dit, adaptée avec les contraintes médico-sociales, mais c'est quand même une entreprise. C'est-à-dire que derrière, il y a de la production, on respecte les clients, on rend un service, on facture.
C'est une entreprise adaptée, effectivement, qui est reconnue avec des personnes qui ont une RQTH. Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, et qui est en partie financée par les pouvoirs publics avec une dotation, et qui a été créée en 2002. Alors, il y a une entreprise adaptée globale, une partie fait du canage, paillage, effectivement, et une autre partie fait des transports.
De transport. Transports pour les personnes également en situation de handicap.
Voilà. Alors, pour les personnes de l'IGA, et puis pour, on va dire un peu à la marge, mais pour d'autres institutions qui souhaitent, de façon un peu marginale, bénéficier de ce service.
D'accord.
Ça concerne 20... personne.
Une vingtaine, quand même.
Voilà, une vingtaine de personnes.
Très bien. On fait de la dentelle, là. Hein. C'est des dispositifs très adaptés. Hein.
Lorsqu'on regarde l'histoire de l'IGA, on se rend compte. Alors, l'entreprise adaptée a été créée en 2002. Et quand on regarde l'historique, on se rend compte qu'à partir de 2002, tous les deux ou trois ans, une nouvelle
activité
est créée, ou une nouvelle extension est créée. Et notamment après que les locaux aient été très largement rénovés en 2006 ou 2007, ce que j'ai dans mes tablettes. Mais à ce moment-là, parce que c'est un lieu très particulier. C'est une C'est une architecture voilà. qu'on peut qualifier d'hospitalière, à savoir ce sont des longs couloirs, avec à gauche et à droite des pièces qui servent soit à l'hébergement, soit à des toutes les activités.
Alors vous avez une activité aussi importante, vous adaptez, vous avez des professionnels qui adaptent des livres en braille, à disposition, bien entendu, des personnes handicapées. C'est un travail très technique, ça.
Oui, c'est très technique, mais c'est le service de transcription.
De transcription, voilà. C'est le service de transcription.
Transcription qui transforme, donc, et qui
crée des livres. Et qui est donc à disposition, donc en créant une bibliothèque, c'est ça, quoi.
C'est ça, c'est ça. Il y a une bibliothèque, et il y a des machines qui produisent donc, les petits ergots sur les feuilles, pour que, lorsqu'on passe les doigts, donc, on puisse lire le braille.
Voilà. Est-ce que ces documents sont aussi vendus à l'extérieur pour des personnes qui ont des déficiences visuelles, ou ça reste exclusivement pour les personnes que vous accompagnez?
C'est essentiellement pour les personnes qu'on accompagne, mais je sais qu'à la marge, il peut y avoir des commandes.
Des commandes d'autres personnes.
Et sachant que. La transcription d'un document multiplie le volume de façon importante.
Oui. Et donc ça veut dire que là, c'est un métier, c'est pas des éducateurs, c'est pas des psychologues, vraiment des métiers très spécifiques.
C'est très spécialisé, avec du matériel spécifique.
Oui. J'imagine que ça doit coûter aussi très cher, ce genre de choses.
Oui, qui coûte cher, et sur lequel on veille jalousement. Sachant aussi que... D'ailleurs, ça, on le voit en conseil d'administration. Il y a des administrateurs qui, devant leur ordinateur, ont une espèce de barrette avec des plots qui ressortent en fonction du texte qui est affiché sur leur écran. Et donc, en même temps que le texte s'affiche sur l'écran qu'ils ne voient pas, ils peuvent, avec les doigts, suivre le texte qui est sur l'écran et répondre pratiquement en temps réel.
Et c'est là qu'on voit...
Plus vite que je ne sais le faire moi-même, d'ailleurs.
Alors, ça veut dire que la technologie amène quand même dans ce type de handicap beaucoup de choses. Et c'est donc le partenariat avec le laboratoire du CNRS de l'université Paul Sabatier, quand même. C'est pas rien, c'est une excellente université, quoi.
Oui, tout à fait.
On peut citer peut-être le nom du chercheur qui travaille
Christophe Jouffray.
Qui passe la moitié de son temps à l'étranger, donc il est très reconnu.
Il est souvent à Singapour, effectivement.
Reconnu par ses travaux avec plusieurs publications.
Tout à fait.
Nos auditeurs pourront retrouver cela sur toutes les plateformes.
Et je rappelle que parmi les administrateurs, le secrétaire du conseil d'administration est lui-même aveugle.
D'accord.
Et je reçois régulièrement des mails de sa part. Et on communique par mail de façon très fluide.
Alors j'ai vu que ce laboratoire travaillait également sur ce qu'ils appellent les données spatiales pour permettre aux personnes en situation de ce handicap terrible qui est la déficience visuelle, de se situer dans l'espace. Voilà, c'est ça qui est intéressant. C'est à travers le toucher, cette sensibilité, tous les outils créés par ce laboratoire permettent donc à une personne de pouvoir visualiser de l'intérieur, j'imagine, dans l'espace en trois dimensions, ce qu'il ne voit pas. Ils doivent l'imaginer.
Ou avec des outils portables.
C'est des choses formidables. Hein. La recherche a fait un bond considérable.
Tout à fait. Voilà, je pense d'ailleurs, je suggère d'inviter M. Jouffray, qui pourra vous expliquer beaucoup mieux que moi les avancées de cette technologie. Mais effectivement, et avec l'arrivée de l'Institut National et puis d'autres associations qui s'occupent de handicap visuel, ça ne peut qu'aller de l'avant et on peut s'en réjouir.
Monsieur Marzeau, avant de continuer à parler de l'Institut des jeunes aveugles et l'ensemble des dispositifs, je vous propose une courte chanson de Reggiani. J'espère que vous apprécierez. C'est un clin d'œil pour vous, Pablo.
Thank you. L'Espagne avait Goya et Velázquez au mur de son Prado. L'Espagne avait l'âme de Don Quichotte et l'âne de Sancho. Quand tu es né d'un aigle et de Carmen, d'un marin de Colomb et de Chimène, des vignes de l'Andalousie et du sang d'un taureau, Pablo. Paris, c'était Montmartre, Apollinaire et le bateau, la voie. La Célestine bleue, l'Arlequin rose, tes yeux de diamant noir. Parade musicien, Pulcinella, la Méditerranée dansait par là. J'entends chanter le piano de Satie sous ton pinceau, Pablo. Pablo, de quel lieu bizarre es-tu, le frère ici-bas? Pablo, même l'Alcazar sait que le hasard, ça n'existe pas. Pablo, contre les Césars, de Garcia Lorca. Pablo, avec ton regard, Hugo et Mozart ont peint Guernica, ont peint Guernica. La paix, c'est ton défi, ton cri de guerre et celui de l'oiseau. Celui de la colombe que tu fais jaillir de ton tableau. Toi, l'homme dessiné par l'infini, l'azur écartelé sous le génie, et toutes les Espagnes libérées de leur Franco, Pablo. Pablo, de quel dieu bizarre es-tu, le frère ici-bas? Pablo, même l'Alcazar sait que le hasard, ça n'existe pas. Pablo, contre les Césars, de Garcia Lorca. Pablo, avec ton regard, Hugo et Mozart ont peint Guernica, ont peint Guernica.
Esprit Occitanie, sentinelle d'humanité, toujours avec le président de l'Institut des jeunes aveugles, M. Louis Marzeau, nous avons parlé des dispositifs d'un laboratoire, d'une entreprise adaptée, du nombre de salariés, donc la carte d'identité de cette belle institution, de cette fondation. Mais M. Marzeau, vous souhaitez présenter un autre dispositif également pour faire le tour, notamment les enfants?
Oui, ce que je voudrais préciser, c'est qu'il y a effectivement, comme nous l'avons évoqué, 150 places d'enfants de 0 à 18 ans, de 0 à 20 ans. 62 places en CESAD.
Alors le CESAD, pour nos auditeurs, c'est l'ambulatoire, c'est ça?
Oui, c'est l'ambulatoire, section spécialisée. D'aide à domicile.
Donc ce sont
souvent,
les professionnels.
Souvent, ça se fait pas à domicile, mais enfin bon.
Voilà, souvent, les professionnels se déplacent, voilà. Oui. Ou en tout cas, dans un lieu différent.
C'est ça. Il y a 37 places d'enseignement. Alors, d'enseignement, soit à l'intérieur de l'IGIA, soit dans les...
Dans les collèges ou écoles
collège
du quartier,
de France, ou le lycée Berthelot. Et ensuite, il y a des... Donc, avec des internes, c'est-à-dire qu'en tout, il peut y avoir dans l'IGIA une cinquantaine d'internes.
Voilà.
Même si, sur les 140 enfants, donc, tous, ou presque tous, sont scolarisés à l'extérieur. Certains sont scolarisés en partie à l'extérieur et en partie à l'IGIA, et d'autres... n'ont pas la possibilité d'être à l'IGIA, mais ils sont minoritaires, sachant que le travail d'inclusion, qui a commencé depuis 2005, en fait, depuis la loi 2005, a été effectivement mis en place à l'IGIA, et le travail avec l'éducation nationale...
Oui, ça se passe bien, pas de difficultés majeures. Les conventions sont...
C'est ça, se fait de façon très positive.
Signées, c'est positif.
Voilà, tout à fait.
D'ailleurs, le recteur toulousain est assez actif pour la société inclusive.
Oui,
on
tout
le
à fait.
Voit ici et là, accompagné notamment dans l'ensemble des institutions... majeure toulousaine,
oui, c'est ça.
Les unités d'enseignement externalisées, les partenariats avec les écoles, les collèges et les lycées. Il faut saluer ce travail de l'éducation nationale.
Tout à fait.
Ça n'a pas été tout le temps comme ça, on peut le dire.
Oui, oui. Bon, il y a des politiques incitatives aussi,
voilà,
qui font qu'on est sorti de l'institution et des murs pour aller vers l'extérieur et offrir aux personnes en difficulté des parcours les plus similaires à ceux des enfants qui ne sont pas réputés avoir des handicaps.
En début de notre entretien, vous avez parlé d'un projet à Cahors, oui, ville de Cahors, dans le Lot. Alors là, un projet quand même important, c'est pas rien, c'est un vrai chantier. L'institution IGA souhaitait offrir pour les adultes, là, hein, plutôt pour les adultes, un logement inclusif. Hein, c'est ça l'idée.
Oui, c'est
alors,
ça.
Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce projet de Cahors qui continue, les entreprises travaillent, et peut-être une livraison de l'ensemble du bâtiment d'ici un an, si tout se passe bien?
Alors, si tout se passe bien.
Si tout se passe bien, voilà, parce que les chantiers sont compliqués.
Parce que le chantier est d'autant plus compliqué qu'actuellement, il est à l'arrêt.
Ah, bon.
Même s'il a bien avancé pendant une certaine période, les travaux ont été arrêtés pendant la période d'administration,
de crise.
Voilà, l'administration.
Administration provisoire.
Judiciaire, oui. Parce qu'il y a eu des incompréhensions et des prudences extrêmes de la part des banques qui, à un moment, ont été réticentes, finalement, à finir de verser un certain nombre de les soldes des emprunts.
Les soldes des emprunts. Alors, qui avaient été contractés.
Voilà, on a repris contact, les sommes ont été versées. Et on s'achemine petit à petit vers la normalité. Il ne reste plus au conseil d'administration que de voter la reprise des travaux.
La reprise des travaux.
Dans la mesure où je dois rencontrer dans quelques jours le président du conseil départemental du Lot, ainsi que le maire de Cahors, s'entendre sur la reprise des travaux avec une perspective d'ouverture entre août et septembre 2024. Parce qu'évidemment, lorsque des travaux s'arrêtent, c'est d'autant plus difficile ensuite de reprendre, mais les choses prennent un cours positif, on va dire. Voilà.
Alors, si vous nous décrivez le projet, c'est combien d'appartements prévus
Alors, le projet...
C'est vraiment des appartements où les personnes se trouvent en véritable autonomie. Hein.
Oui,
c'est bien ça.
Il y a 36 petits appartements, donc studio pour
studio,
en
terrain,
trois bâtiments voilà. différents.
C'est ça.
Ensuite, il y a une ou deux villas. En tout, 50
personnes qui peuvent être hébergées.
Et 6 personnes qui peuvent bénéficier de des prestations qui seront proposées dans l'ensemble de ces bâtiments en termes d'accompagnement, en termes culturels, en termes d'activité pour des personnes qui ne peuvent pas forcément avoir une activité salariée ou...
Dans ce projet, les bénévoles du secteur et les familles se sont apparemment beaucoup impliqués.
Oui,
ils
oui.
sont prêts à faire fonctionner cela avec, on pourrait tenir, beaucoup d'enthousiasme.
Oui, ils se sont beaucoup impliqués et ils tiennent effectivement à aller jusqu'au bout de,
aller jusqu'au bout de ce projet.
De ce projet, sachant que il faut préciser que c'est un projet régional.
Donc, veut dire qu'on ne va pas rester dans le département Occitanie, on peut y compris aller plus loin pour accueillir des enfants ou des adultes.
Alors, notamment quand adultes. On dit régional, on pense évidemment à Occitanie, mais en fait, c'est plutôt l'ex-région Midi-Pyrénées, on va dire, parce qu'ensuite, il y a d'autres dispositifs du côté de Montpellier, mais celui-ci sera original, parce que J'ai dans les informations qui m'ont été données, un certain nombre de projets de ce type ont été évoqués dans d'autres départements, mais n'ont pas abouti. Et ça serait un projet original et inaugural, finalement, concernant ce type de handicap.
Donc 2024, fin 2024.
Fin 2024, alors que ça aurait dû être fin 2023, mais bon, ça retarde juste d'un an. Et à ce moment-là, ça veut dire 56 personnes en situation de handicap pardon, qui seraient accueillies avec 45 professionnels, 45 ETP, équivalent temps plein professionnel.
Qui feront tout ce qui concerne l'accompagnement socio-culturel et bien d'autres. Mettre une vie, comme vous avez dit, à chaque fois une vie la plus
normale
possible.
Donc ça serait un pôle à la fois social, économique, culturel qui concernerait sur la ville de Cahors. Une centaine de personnes.
Alors, vous avez dit que vous rencontriez le président du conseil départemental du Lot, parce qu'en effet, ça a été un appel à projet lancé par le conseil départemental.
Oui, c'est ça.
Ça veut dire que le conseil départemental, a priori, on sait que la technostructure et les élus ont identifié un besoin criant sur ce secteur.
Et je peux dire que parmi tous les partenaires qui sont concernés dans ce projet, le fait de reprendre contact avec eux et de manifester la volonté d'aller jusqu'au bout de ce projet satisfait tout le monde.
C'est un projet à combien de... Il faut toujours parler du
millions.
Budget. Combien ?
9 millions.
9 millions, c'est quand même lourd hein, comme investissement. Hein.
Alors... Oui, c'est lourd. C'est surtout pratiquement le budget annuel de l'IGA.
Ben oui, parce que vous avez dit entre 10 et 11 millions.
Ouais, c'est ça.
Il faut avoir les reins solides et en tout cas avoir l'enthousiasme pour aller jusqu'au bout. Mais vous l'avez, Monsieur Marzeau,
oui,
on vous connaît comme ça.
Mais je ne suis pas seul,
On vous connaît comme ça, sur l'accompagnement. Une question plus personnelle. Je vous ai dit tout à l'heure, en vous présentant, que vous aviez 30 ans de direction générale, mais vous n'avez pas démarré par direction générale. Vous avez démarré comme professeur, vous étiez professeur dans l'enseignement.
Oui, j'ai fait des études littéraires.
Bon, études littéraires, et puis ensuite, vous avez commencé à travailler dans l'institut médico-éducatif. Vous êtes tombé dans le médico-social à travers l'enseignement, c'est ça ?
Oui, j'étais enseignant, et à l'époque, on m'a proposé... De travailler dans un institut de rééducation. Je ne savais pas du tout ce que c'était un institut de rééducation. Et on m'a proposé un poste de direction pédagogique. Alors je dis, c'est dans mes cordes.
Ça, donc, je sais faire.
Je sais faire. Et donc, je suis rentré dans un monde totalement inconnu pour moi.
Et ça a été la découverte.
Qui est un institut de rééducation qui est l'ancienne appellation des ITEP.
Donc, les ITEP qui sont aujourd'hui voilà, des instituts pédagogiques et thérapeutiques.
Voilà, c'était, en fait, c'était des adolescents en rupture de scolarité. Et des adolescents en rupture de scolarité dans un établissement géré par les pupilles de l'école publique.
D'accord.
C'est quand même un peu paradoxal. Avec une école dans l'institution, etc., etc. Et ça n'a pas été tout à fait simple, parce que c'est une population qui était vraiment en rupture avec la scolarité à l'époque. Et puis, petit à petit, j'ai continué.
Vous avez appris le métier.
J'ai appris le métier, voilà.
Et vous l'avez aimé, on y reviendra oui, tout à l'heure. Quels sont les autres projets pour l'Institut des jeunes aveugles? Vous avez dit une fondation, donc il faut lancer également là le projet dit fondatif, pas le projet associatif. Alors, oui, parce que quand on parle de fondation, projet fondatif.
Projet fondatif.
C'est un terme
alors, je précise,
qui est peu utilisé.
Je précise avant de vous répondre sur ce point, j'ai oublié de le... parce que Cahors me fait penser au fait que l'Institut jeunes aveugles a des antennes à Albi, un CESAD.
Un CESAD, de l'ambulatoire, donc un service qui est à la disposition des jeunes et des familles.
Alors, à Albi, qui est hébergé dans les locaux du Bon Sauveur, à Montauban, une quinzaine de places dans une villa, des bureaux qui appartiennent à l'IGA. Donc bientôt à Cahors et dans quelques jours va s'ouvrir un petit CESAD à Carcassonne.
À Carcassonne. Donc voilà. Vous êtes bien vraiment présent sur l'ensemble.
Il y avait aussi une structure de en lien avec Montpellier, 8 places à Montpellier, 8 places à Toulouse et puis finalement. On a décidé de séparer les deux parce que c'était très difficile de gérer les...
Et c'était toujours en partenariat avec d'autres associations.
Oui, tout à fait.
Alors, je crois qu'également, au sein des locaux toulousains, vous accueillez également une crèche.
Oui. Alors,
et alors là, c'est quoi? C'est un partenariat?
Oui, c'est un partenariat avec la Mutualité française. C'est une crèche de quartier, en fait. Et qui a été créé au moment de la réfection des locaux. C'est à ce moment-là, enfin, ce que j'ai appris, que cette crèche s'est mise en place avec le projet, chaque fois que la situation se présente, d'accueillir des jeunes enfants qui ont une déficience visuelle ou un handicap visuel.
Et le partenariat avec la mutualité se passe aussi de façon...
Pour ce que j'en sais, oui.
Pour le moment, sans difficulté. Voilà. Quand on dit sans difficulté majeure, je vous dis cela, Monsieur Marzeau, cher Président, parce que souvent, le travail de coopération n'est pas simple dans notre secteur. Il faut parfois se faire violence pour être précis.
Je connais bien ça, oui.
Il faut dire « je » et « nous » en même temps. Ou dire « nous », c'est quand même mieux dans le secteur. Nous militons pour cela. Donc, belle réussite. Vous diriez que votre mission de président, vous allez la faire combien de temps? 3, 4 ans, 5 ans? Est-ce que vous êtes un président pour la durée, un président parce que vous aimez les challenges, les défis?
Oui, moi, ce qui m'intéresse dans cette affaire, c'est de remettre cette institution d'abord en marche, et ensuite de faire en sorte qu'elle continue à se développer, parce qu'on a bien... Ça ne fait pas beaucoup de temps que je suis dans ces fonctions, mais je me rends compte qu'il y a des personnes qui doivent être satisfaites dans leur demande et qui ne le sont pas, concernant le handicap visuel et les handicaps associés.
Il y a beaucoup. Est-ce qu'on a des chiffres nationaux, mais c'est pas une question piège, Monsieur Marzeau, ou peut-être dans la région toulousaine, ou uniquement des chiffres de l'ARS, du nombre d'enfants ayant ce type de déficience dans la région Occitanie. Un millier d'enfants,
national,
est-ce que vous avez une idée?
Moi, j'ai des chiffres,
des chiffres nationaux,
j'ai
peut-être.
Des chiffres nationaux qui disent que le handicap visuel concerne 2% des personnes handicapées.
2%
voilà,
des personnes.
Pour dire les choses.
Voilà. D'accord.
Bon, ensuite, il y a des répartitions en tant que difficultés particulières, etc., dans lesquelles je ne rentre pas parce que
Bien sûr.
Je n'y connais rien, en fait. Je suis chargé avec les administrateurs de remettre les choses en route, mais je ne suis pas spécialiste de ce handicap. Et d'ailleurs, un président
n'a pas besoin.
Ça, c'est une autre question.
C'est une autre façon de voir
voilà,
votre gouvernance.
Voilà, c'est ça. N'a pas besoin d'être. Voilà. Il doit être spécialiste des valeurs dont il est porteur.
Alors justement, quelles sont les valeurs de l'Institut des jeunes aveugles? C'est porté par quoi? Alors, vous l'avez dit qu'il y avait bien entendu des congrégations, qu'il y avait là quelque chose autour de la pensée sociale chrétienne, qu'il y avait.
Ah oui,
mais
aujourd'hui,
c'est quoi? Même si on est issu de cet héritage, quand même.
Oui, ben je pense que la laïcisation
des associations, des associations
et des valeurs portées par les associations ne sont pas forcément très en rupture avec. Les valeurs qui étaient portées à une certaine époque par
les congrégations.
Les congrégations. Simplement, peut-être que les moyens qui sont utilisés aujourd'hui, évidemment, avec le droit des notamment avec le droit des personnes, les droits des personnes qui sont reconnus aujourd'hui, permettent de mettre en place des dispositifs qui sont beaucoup plus satisfaisants et qui sont... Alors, je dirais... Parce que je ne veux pas juger une autre époque à l'aune de ce qu'on pense aujourd'hui, parce que ça serait absurde. Mais aujourd'hui, le fait d'ouvrir les institutions vers l'extérieur, c'est vraiment le projet qui doit être mis en place, quand bien même les difficultés seraient importantes, quoi. Et c'est ça qu'il faut avoir en ligne de mire.
Et donc, il est prévu que vous travaillez avec votre équipe au sein du conseil d'administration sur le projet fondatif pour le mettre à jour et également, par la suite, travailler le projet dit d'établissement.
C'est ça. Alors, il faut savoir que les statuts de la fondation datent de 1978. Enfin, les premiers, c'était 1868 avec la reconnaissance
d'utilité publique.
Ils ont été renouvelés en 1978 parce que la loi de 75, la loi de 1975,
oui.
Bien connue, n'est-ce pas?
La loi qui a marqué.
La loi des institutions, en fait, sociales et médico-sociales, entraînait la révision des statuts et le renouvellement de la reconnaissance du diplôme public. Il se trouve que des décrets de 2018 prévoient que les fondations reconnues d'utilité publique et associations doivent rénover leur statut selon un cadre qui a été...
Oui, parce que ce que nous avons compris également, c'est que les statuts des fondations passent quand même par les fourches codines du ministère de l'Intérieur, quoi.
Ah,
c'est
oui.
Très normé, quoi.
Oui, et que lorsque vous déposez une demande, il faut être patient.
Ah, voilà, c'est
parce
ça.
Parce que
oui.
c'est entre 1 et 2 ans avant d'avoir une réponse. Moi, j'ai connu ça dans d'autres associations. Et donc, il faut effectivement refaire les statuts. Alors, non seulement les statuts, font l'objet d'une reconnaissance d'utilité publique, mais aussi le règlement intérieur, qui est le règlement de fonctionnement.
Qui sera le règlement de fonctionnement de l'institution, avec le lien du conseil d'administration,
voilà.
la dirigeance, gouvernance et dirigeance, pour cela tourne parfaitement, quoi.
Et donc, c'est le travail qui doit être lancé au niveau
très
du conseil d'administration, là, immédiatement.
Et donc, des groupes de travail, j'imagine, on reparlera tout à l'heure. Allez, un autre clin d'œil, une diva espagnole, Luz Casal.
Ah!
sé exactamente qué pasó, que todo de repente ya cambió. En nuestro diariamente lo bonito tristemente terminó. ¿A dónde va nuestro amor? Si cada día se va muriendo la flor de tu agonía, ¿a dónde va nuestro amor? Cariño mío, si donde hubo los sueños que tuvimos una vez, ahora los vestimos de altivez. Creemos ser felices y reñimos 30 veces cada mes. ¿A dónde va nuestro amor? Cada día en nuestro cielo hay un sol en agonía, ¿a dónde va nuestro amor? Yo me pregunto y no me sé contestar, por cobardía. Si donde hubo solo hay frío.
Esprit Occitanie, sentinelle d'humanité, avec Louis Marzeau, le président de l'Institut des jeunes aveugles. Et nous parlions tout à l'heure des statuts et du projet fondatif. Une fondation, l'Institut des jeunes aveugles, les statuts qui sont en révision et bien entendu un projet fondatif qui donnera le ton pour les 5 prochaines années. C'est ça le travail, oui, c'est ça, que vous allez lancer ?
Alors ça donnera le ton sur les orientations que la fondation se donne. Sur la base des projets qui ont été lancés depuis déjà une dizaine d'années, parce que tous les deux ans, je crois qu'il faut repenser et reglobaliser tout ce qui a été mis en place, et puis effectivement se projeter dans les années à venir, et surtout mobiliser, alors bien sûr les administrateurs, mais mobiliser aussi les salariés,
les professionnels
pour que et aussi les personnes accueillies, en organisant les choses de telle façon que chacun puisse exprimer chacun à sa place ses souhaits pour les 5 années à venir. Et ça, c'est un chantier, pardon, c'est un chantier qu'il faut lancer, qui peut prendre 6 mois, et avec l'objectif d'arriver sur tous ces textes, refaire la charte, refaire les projets, refaire, etc., d'ici juin, quoi, disons.
Et pour présenter en Assemblée Générale, c'est ça, qui sera... Il y a aussi une autre date, la Haute Autorité de la Santé a le référentiel qualité, l'Institut des Jeunes Aveugles, il est prévu dans le calendrier, à quel moment l'évaluation
dans 2024-2025? Vous n'avez pas de date pour le moment
Alors, c'est une question qu'il va falloir...
Il va falloir traiter aussi.
Traiter aussi parce que...
Il faut s'y préparer.
Oui. Alors, les modalités de l'évaluation ont changé depuis quelques mois, on va dire, notamment avec la Haute Autorité de Santé. On n'est plus sur la double évaluation interne-externe, même s'il faut mettre
il
des...
Il faut quand même une évaluation.
Oui, bien sûr.
La qualité tout au long de la vie
des outils
et tous les outils.
Parce que ces outils internes permettent effectivement de répondre à tout moment à une sollicitation externe. Et donc... je pense que, quel que soit ce qui a été fait, il faut se lancer dans une nouvelle évaluation dans les prochains mois, on va dire. La question, c'est qu'il faut maintenant, avec les administrateurs, j'allais dire, mettre sur la table toutes ces injonctions, finalement, qui sont les nôtres, et puis les prioriser, de façon à permettre à l'Institut de reprendre sa vitesse de croisière tranquillement et de se lancer dans de nouveaux projets féconds.
Le Conseil de la vie sociale également va fonctionner, vous l'avez relancé, vous avez des familles qui participent, qui sont sollicitées pour participer activement. Oui. Ça aussi, c'est un travail... important qui doit être fait. J'ai vu que les familles étaient très, très présentes hein, dans cette institution. On sent qu'il y a un appétit, on a envie de suivre. Il y a de l'affection pour l'institution, pourrait-on dire.
Hein. Alors, il y a de l'affection pour l'institution et puis il y a aussi une demande très forte parce que les problématiques dont sont porteurs les jeunes enfants surtout impactent la vie des familles, des couples et effectivement ils sont souvent très demandeurs d'un appui important pour réguler leur vie qui est rendue pas très simple par tout le monde connaît ça.
On va arriver au terme de notre entretien, Monsieur Marzeau. En tout cas, merci d'avoir accepté cette invitation. Au cours de votre carrière de directeur général, un grand succès dont vous êtes très fier, c'est quoi ? Quelque chose qui vous a marqué ? Je dis bien en tant que directeur général. Quelque chose qui, voilà, une fierté particulière, une envie de mettre en avant. Ça serait quoi ?
Quand je suis parti de l'AGAPEI, le dernier jour...
L'AGAPEI qui est
l'AGAPEI que j'ai dirigé pendant un certain nombre d'années, donc je suis parti à la retraite. C'était le jour de l'Assemblée Générale. Et lorsque je suis parti, un usager est venu me faire un cadeau.
Ça vous a marqué ?
Et c'est ça qui m'a marqué.
Il vous a marqué le plus. C'est-à-dire, j'ai fait le job là pour ces personnes-là.
J'ai été reconnu par un usager.
Par un, voilà. Personne bénéficiaire, personne accompagnée.
Voilà.
Est-ce qu'il y a des choses que vous avez ratées ? Mais c'est très difficile, mais il y a quand même une vertu à l'échec. Quelque chose que vous avez dit, tiens, ça je ne l'ai pas bien réussi, j'ai un regret.
Bon, j'aurais pu beaucoup mieux faire dans beaucoup de domaines, mais non, ça ne me vient pas comme ça. Vous auriez dû me demander
la question,
de
préparer. Mais je voulais de la spontanéité.
Oui, non, je vois pas. J'ai du mal à vous répondre comme ça.
Bah, peut-être qu'il y avait rien du tout, hein, et que tout était bon. Et donc, dans les associations qui vous ont le plus marqué, que vous avez géré, c'est celle qui vous a marqué le plus offert, qui a dit, tiens, là, j'ai mis toutes mes tripes. Quelle association était pour vous ?
Ben, j'ai dirigé 5 ou 6 associations. Je crois que j'ai mis la même chose. Oui. J'ai bien travaillé avec les pupilles, j'ai bien travaillé avec l'ARCEA, j'ai bien travaillé avec les ADAPI.
Les ADAPI, voilà, oui.
Oui.
Et donc une réussite. Vous êtes en contact avec vos anciens collaborateurs, ils vous téléphonent, ils vous envoient des petits messages quand vous avez quand les gens ont appris que vous étiez président, oui. Vous avez eu des messages d'encouragement ?
Oui. Oui, j'ai mis cette information sur un réseau social professionnel.
Voilà, professionnel.
Et effectivement, j'ai eu des réponses souvent même très inattendues.
C'est parfois des
gens que j'avais un
c'est
peu...
C'est satisfaisant.
Oui, tout à fait.
On retrouve là, vous avez envie. Bon, et donc, pour conclure, on dira l'Institut des jeunes aveugles, minimum c'est pour 5 ans, c'est le projet fondatif, quoi.
Ah,
et après, on verra.
Si Dieu me prête vie.
Si Dieu me prête vie. Mais en tout cas, vous en avez, il y a de l'enthousiasme. Nous terminons ce sentinelle d'humanité. Monsieur Louis Marzeau, président de l'Institut des Jeunes Aveugles. L'Institut des Jeunes Aveugles peut recevoir des dons.
Ah oui,
parce que vous êtes une fondation.
Tout à fait.
Pour tous ceux et celles qui veulent donner un peu d'argent... Tout cela est défiscalisé, bien entendu, 60% je crois.
C'est ça.
Donc vous pouvez donner, aller sur le site, il y a un projet, c'est important. Et à toutes et à tous, à la semaine prochaine.